Chapitre 47. Les portes s'étaient violemment refermées. Les émotions rongeaient l'âme de sa reine comme une meute de loups déchaînés dont chaque membre exigerait toute son attention. 5 jours auparavant, lorsqu'elle avait cru sa vie finie, elle avait prié, supplié même Domu de la guérir. À présent, elle aurait tout donné pour retourner dans l'enfer de cette cité maudite. Parce que Esprit était là-bas. Mais Domu en avait décidé autrement. Esprit avait raison. Elle ne pouvait pas plus rester à Elantris qu'il ne pouvait vivre en dehors de ses murs. Leur monde, leurs besoins physiques étaient bien trop différents. La jeune femme sentit une main se poser sur son épaule. Elle se retourna, prenant sur elle pour dissimuler sa tristesse. Elle était rarement obligée de tendre le cou pour regarder un homme dans les yeux. Raten. Jadette vous a sauvé, princesse. Sa voix était à peine audible. Sa reine se dégagea avec brusquerie. Je ne sais pas comment vous avez fait, prêtre, mais il est une chose dont je suis absolument certaine. Je ne dois rien à votre dieu.
Votre père ne voit pas les choses ainsi, princesse, dit Raten, le visage tendu.
Pour un homme dont la religion prône la vérité, je trouve vos mensonges étonnamment grossiers, mon cher prêtre. Un sourire imperceptible se dessina sur les lèvres de Raten.
Des mensonges? Vous devriez parler avec lui. D'une certaine façon, c'est vous qui allez remettre le Théode entre nos mains. Convertissez un roi, et vous convertissez tout un royaume.
C'est impossible! Sa reine se sentait de moins en moins sûre d'elle. Les Giorn avaient la réputation de mentir.
Vous vous êtes bien battue, princesse, avec intelligence, reprit Raten en tendant vers elle sa main gantée. Mais le sage sait quand baisser les armes. J'ai le Théode, et la Rhaelon sera bientôt sous ma coupe. Vous me faites penser à l'alouette de mer, qui doit sans cesse recommencer à creuser son nid dans le sable mouillé après le passage des vagues. Convertissez-vous au chu d'Erette pour que vos efforts servent une autre cause que votre vanité.
Autant mourir!
Vous l'avez déjà fait et je vous ai ramené parmi nous.
Alors qu'il faisait un autre pas vers elle, sa reine s'élança sur le côté, les mains posées sur sa poitrine pour se protéger. Un éclat métallique brilla dans la lumière du soleil. La pointe de l'épée d'Eondel se posa contre la gorge de Raten. Des bras énormes et puissants attrapèrent sa reine. Derrière elle, une voix éraillée poussa un cri de joie.
« Que soit béni le saint nom de Domu !»
fit Kiin en soulevant la jeune femme.
« Que soit béni le nom de Jadette !»
répliqua Raten, le fil de l'épée encore appuyé contre sa gorge. « Domu l'aurait laissé moisir à Elantris !»«
Taisez-vous, prêtre !»
dit Eondel en appuyant son arme un peu plus fort. Raten émit un grognement. Puis, sans que sa reine ait rien vu venir, le Giorn bascula en arrière, dégagea sa tête de la lame et frappa de son pied la main d'Eondel. L'arme tomba au sol. Il se retourna d'un bond, sa cape écarlate gonflée sous l'effet du mouvement. Sa main gantée de rouge brandit alors l'épée dont le métal brilla dans la lumière du soleil. Le Giorn fit claquer la pointe contre le sol en pierre, tenant l'arme comme un roi aurait tenu un sceptre. Puis, il la laissa tomber directement dans la main engourdie d'Eondel. Le prêtre profita de la confusion générale pour s'avancer vers sa reine et lui murmura à l'oreille, si près que sa cuirasse effleura Kiin qui serrait toujours la jeune femme dans ses bras.
« Le temps est comme une montagne, sa reine. Il évolue si lentement que la plupart des gens ne le remarquent même pas. Mais gare à ceux qui ne s'écartent pas de son chemin. »
À ces mots, il sortit, sa cape frôlant Kiin et Eondel au passage. Kiin le regarda s'éloigner avec un air haineux avant de s'adresser à Eondel.
« Partons, mon général. Emmenons sa reine chez vous. Elle a besoin de repos. »«
Ce n'est pas vraiment le moment de se reposer, mon oncle. Nous devons absolument nous entretenir avec nos alliés, sans attendre. »
Kiin haussa les sourcils.
« Nous aurons bien le temps de nous occuper de tout cela plus tard, Aene. Tu n'es pas en condition physique pour... »«
J'ai eu tout le loisir de me reposer, mon oncle. Nous avons du pain sur la planche. À ce propos, il se peut que je retourne à Elantris lorsque nous en aurons terminé. Pour l'heure... Nous devons absolument empêcher Telrii de remettre la Rhaelon aux mains de Virne. Que des messagers aillent prévenir Royal et Ahan. Je dois les voir sur le champ. »
Son oncle eut un air parfaitement ahuri. Eondel rit. « Eh bien, elle a l'air plutôt en forme. »
Les cuisiniers de la maison de son père, eux, le savait depuis longtemps. Lorsque sa reine avait faim, elle devenait une véritable ogresse.
« Tu ferais bien de te dépêcher, ma cousine, » dit Lucel à sa reine qui finissait sa quatrième assiette. « J'ai l'impression que tu as à peine goûté ce plat-là. »
La jeune femme ne releva pas sa remarque et signifia à Kiin de faire venir la suite. Elle avait entendu dire que si l'on affamait quelqu'un suffisamment longtemps, l'estomac rétrécissait, ce qui réduisait du même coup la quantité de nourriture que l'on pouvait ingérer. L'homme qui avait inventé cette théorie serait tombé à genoux pour prier s'il avait vu sa reine dévorée de la sorte. Elle était attablée face à Lucel et Royal. Le vieux duc venait à peine d'arriver. Il avait manqué s'évanouir lorsqu'il avait vu la jeune femme. Mais il s'était ressaisi, puis avait prié Domu avant de s'asseoir sur la chaise en face d'elle, sans voix.
« Je peux affirmer sans crainte de me tromper que je ne connais aucune femme qui ait un tel coup de fourchette, »
fit remarquer le duc Royal, visiblement rassuré. Il y avait encore un soupçon d'incrédulité dans ses yeux lorsqu'il la regardait.
« En réalité, sa reine est une géante théoise, » expliqua Lucel. « Je ne crois pas que l'on puisse la comparer à une femme ordinaire. »«
Si je n'étais pas occupée à manger, je répondrais à cette remarque, »
répliqua sa reine en les menaçant avec sa fourchette. Elle ne s'était rendue compte de sa faim qu'au moment où elle avait pénétré dans la cuisine de Kiin, où les parfums rémanents des festins précédents emplissaient l'air, telle une brume délectable. La jeune femme se félicitait d'avoir un oncle gourmand et voyageur. Kiin revint avec une casserole où de la viande aux légumes frissonnait dans une sauce rouge vif.
« C'est du rail domo mejindoe, ce qui signifie la viande dont la peau emporte la bouche. Par chance, j'avais les bons ingrédients sous la main. La récolte du piment jindoe raidel n'a pas été très bonne la saison dernière et... »
Il s'interrompit en voyant sa reine se servir et soupira.
« Mais tu t'en moques complètement, n'est-ce pas? J'aurais tout aussi bien pu la faire bouillir dans de l'eau de vaisselle, tu ne ferais pas la différence. »
« Je comprends, mon oncle. Tu souffres au nom de ton art. » Kiin se rassit, contemplant les plats vides accumulés sur la table.
« Eh bien, avec un appétit pareil, personne n'osera dire que tu n'es pas de la famille. »«
Elle est grande, » insista Lucel. « Elle a besoin de carburant pour se déplacer. »
Sa reine lui lança un regard assassin entre deux bouchées.
« Est-ce qu'elle ne ralentit pas un peu le rythme ?»
s'enquit Kiin.
« Je vais bientôt être à court de provisions. »
En fait, fit la princesse, je crois que ça commence à aller mieux. Vous n'imaginez pas ce que j'ai vécu, messieurs. À la vérité, je me suis bien amusée chez les damnés, mais il n'y avait rien à manger.
Cela me surprend, commenta Lucel. Les élantriens ont la réputation d'être gourmands.
Mais ils n'ont pas réellement besoin de se nourrir, dit Kiin. C'est pour cette raison qu'ils arrivent à stocker des provisions.
Tandis que son oncle et son cousin poursuivaient leur échange, sa reine continua de manger sans s'intéresser à la conversation. Ses dernières paroles captèrent pourtant son attention. Comment connaissait-il tant de choses sur Elantris ?
Oublions tout cela, princesse, intervint Royal. Je remercie Domu de vous avoir rendu à nous saine et sauve.
Ce n'est pas aussi miraculeux qu'il y paraît, Royal, répondit sa reine. Est-ce que vous savez combien de jours Raten a passé à Elantris ?
4 ou 5, dit Lucel après avoir pris le temps de réfléchir.
Je parierais plutôt sur 5. Exactement la durée de mon séjour à Elantris jusqu'à ce que je guérisse. Royal hocha la tête.
Le Giorn a un lien avec cette histoire. Avez-vous eu le temps de parler à votre père ?
Sa reine sentit son estomac se retourner. Non, je compte le faire prochainement. On frappa à la porte. Eondel entra dans la pièce, suivi de Shuden. Le jeune Jindoe revenait d'une balade à cheval avec Torena. Le visage du baron arborait un large sourire parfaitement inhabituel.
Nous aurions dû nous douter que vous reviendriez, sa reine. Vous seul pouviez aller en enfer et en revenir indemne.
Pas tout à fait indemne, dit la jeune femme en frottant son crâne chauve du revers de la main. Avez-vous apporté ce que je vous ai demandé ?
Voici, madame, dit Eondel
en lui tendant une perruque blonde coupée court.
« C'est la plus belle que j'ai pu trouver. En comparaison, les autres semblaient faites en crin de cheval. »
Sa reine observa la perruque d'un œil critique. Les faux cheveux lui arriveraient à peine aux épaules. Mais cela valait mieux que d'être chauve. Sa chevelure était la chose la plus importante que son exil à Elantris lui avait fait perdre. Et cela prendrait des années avant qu'elle ne retrouve sa jolie longueur. Elle reposa la perruque. Elle attendait de se retrouver seule pour la mettre. «
Dommage que personne n'ait pensé à ramasser mes cheveux. »
Nous ne pensions pas vraiment que tu reviendrais, cousine, fit Luquel en piquant les derniers morceaux de viande dans la casserole. On a dû les brûler avec ton voile.
Brûler ?
Une coutume arelloise, haine, expliqua Kiin. Lorsqu'une personne part pour Elantris, on brûle tous ses biens.
Tous ?
Demanda la princesse, d'une voix faible.
J'en ai bien peur, dit Kiin, gêné.
Sa reine ferma les yeux et respira profondément. Tant pis. Où est Ahan ?
Au palais royal, dit Royal.
Sa reine fronça les sourcils. Et que fait-il là-bas ? Kiin haussa les épaules.
Nous avons pensé qu'il serait judicieux d'envoyer quelqu'un faire des propositions au nouveau roi. Nous allons devoir travailler avec Tel Rii. Nous souhaitons savoir quel genre de coopération il pense nous proposer.
Sa reine observa ses compagnons. En dépit de la joie manifeste que leur procuraient ces retrouvailles, elle vit autre chose sur leur visage, un air de défaite. Ils avaient tant fait pour tenir Tel Rii à l'écart du trône, mais ils venaient d'échouer. Même si sa reine n'en montrait rien, elle se sentait abattue. En fait, elle en était malade. La jeune femme ne savait plus ce qu'elle voulait. La situation était devenue trop compliquée. Seul son sens du devoir la faisait tenir. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles d'esprit. La Rélone allait droit à la catastrophe. Sa reine n'osait même pas repenser à ce que Raten lui avait dit à propos de son père. Peu importait ce qui arriverait, elle devait protéger la Rélone coûte que coûte, pour sauver Elantris. Elle s'adressa à l'assemblée silencieuse.
« Vous semblez convaincu que nous ne pouvons plus battre Tel Rii. »«
Et que pourrions-nous faire ?» commenta Luquel. « Tel Rii a été officiellement couronné. Il a le soutien de la noblesse. »
« Et de Virne ?» rappela sa reine. « C'était une bonne idée d'envoyer à Anne, mais je doute que le nouveau roi manifeste la moindre clémence, ni à notre égard, ni vis-à-vis de ses sujets. Mes seigneurs, Raoden aurait dû monter sur le trône. Je suis sa femme. Je me sens responsable de son peuple. Les gens ont peut-être souffert sous le règne de Yadon, mais si jamais Tel Rii remet son royaume entre les mains de Virne, la Rélone ne sera bientôt plus qu'une province fjordelle.
Que voulez-vous dire, sa reine ? Demanda Shuden. Que nous devons prendre des mesures contre Tel Rii, agir quoi qu'il nous en coûte.
Tout le monde se tut jusqu'à ce que Royal prenne la parole.
La situation a changé depuis la fois dernière, sa reine. Nous nous opposions à Yadon, mais nous n'avions pas pour objectif de le renverser. Si nous nous attaquons directement à Tel Rii, nous deviendrons des renégats.
Nous trahirons la couronne, certes, mais pas le peuple, affirma sa reine. En Théode, le peuple respecte son roi parce qu'il le protège. C'est un marché entendu, un accord de principe. Yadon n'a rien fait pour protéger la Rélone. Il n'a pas entraîné d'armée pour combattre les Fjordelles. Il n'a mis aucun système législatif en place afin d'assurer l'équité à ses sujets. Et il n'a rien fait pour le bien-être spirituel de cette nation. Mon instinct me dit que Tel Rii sera encore pire.
Royal soupira.
Pas nécessairement. Yadon a asservi les Elantriens pour asseoir son pouvoir. Vous nous suggérez de faire de même. Combien de drames de ce genre cette nation peut-elle encore endurer avant de tomber ?
Combien d'attaques de la part de Raten faudra-t-il encore que je supporte selon vous ?
Demanda sa reine d'un ton plein de sous-entendus. Les seigneurs assemblés se dévisagèrent.
La nuit porte conseil, sa reine, lança Shuden. Vous parlez de choses terribles, dans lesquelles on ne se lance qu'après mûre réflexion.
Je suis d'accord avec vous, répondit-elle.
Elle ne demandait pas mieux que de se reposer, elle aussi. Pour la première fois depuis une semaine, elle allait dormir au chaud. Les seigneurs se saluèrent de la tête, puis chacun se leva et partit de son côté. Royal, lui, resta.
« Il me semble que nous devrions rompre nos fiançailles, sa reine. »«
Justement, j'y pensais, monseigneur. Vu le contexte actuel, nous n'arriverons à reprendre le trône que par la force. La stratégie politique ne mènera nulle part. »
Le vieillard hocha la tête. Il semblait déçu.
« Ah, j'aurais dû m'y attendre. C'était trop beau pour être vrai. Bonne nuit, ma chère. »«
Bonne nuit. »
Sa reine sourit tendrement au vieux duc.
« 3 fois fiancée et toujours pas mariée. Quel tableau !»
Elle regarda en soupirant la porte se refermer derrière Royal, avant de se tourner vers Kiin, qui débarrassait méticuleusement les restes du repas.
« Mon oncle, Tel Rii vit au palais et toutes mes affaires ont été brûlées. Je me retrouve sans toi. Puis-je accepter aujourd'hui l'offre que tu m'avais faite voici 2 mois et m'installer ici ?
Kiin s'esclaffa.
« Ma femme serait déçue si tu ne le faisais pas, Aen. Elle vient de passer une heure à te préparer une chambre. »
Saren était assise sur son lit. Elle portait une chemise de nuit que sa tante lui avait prêtée. La jeune femme, recroquevillée sur elle-même, avait posé le front contre ses genoux. Elle avait l'impression que sa tristesse ne la quitterait jamais. Haché était resté flou un moment, le temps que le visage d'Eventéo disparaisse et que le Séon puisse reprendre sa forme normale. Il demeura silencieux quelques minutes avant de dire « Je suis désolée, madame. » Sa reine se contenta de hocher la tête. Raten n'avait pas menti, pas plus qu'il n'avait enjolivé la situation. Son père s'était bien converti au Chudérette. La cérémonie n'avait pas encore eu lieu. Il n'y avait pas de prêtre d'Ereti en Théode. Mais dès que Raten en aurait fini avec la Rélone, il se rendrait dans le pays natal de la jeune femme pour recueillir lui-même le serment de son père. Sa reine en était convaincue. Cette conversion placerait Eventéo au bas de la hiérarchie d'Ereti, ce qui le soumettrait aux caprices du moindre petit prêtre. Aucun argument n'avait réussi à faire changer son père d'idée. Eventéo était un homme honnête. Il avait promis à Raten de se convertir s'il lui ramenait sa fille saine et sauve. Peu importait que sa maladie et sa guérison ne fussent que des ruses, le roi comptait honorer sa promesse. Le Théode se conformerait à la décision d'Eventéo. Cela prendrait du temps, bien sûr. Les Théois n'étaient pas des moutons. Toutefois, lorsque les Artêtes envahiraient les rues, les gens tendraient l'oreille, au lieu de donner du poing comme ils l'auraient fait autrefois, à cause de la conversion de leur roi. Le sort du Théode venait de basculer à tout jamais. Eventéo faisait cela pour sa fille, même s'il affirmait le contraire. En dépit des qualités offensives de la flotte du roi, les militaires garantissaient qu'une campagne Fjordel bien menée réussirait à percer les lignes de l'armada. Le roi disait à qui voulait l'entendre qu'il refusait de mener une guerre inutile. Cet homme avait pourtant enseigné à sa reine qu'il fallait se battre pour son pays. Eventéo avait lui-même fait cette promesse. À l'entendre, aucune bataille, même perdue d'avance, n'était vaine si sa cause valait la peine que l'on se batte pour elle. Mais visiblement, l'amour qu'il portait à sa fille était plus fort que ses convictions. Sa reine se sentait flattée et coupable à la fois. Le Théode allait tomber et devenir une province fjordelle à cause d'elle. Cela ravalerait son père au rang de domestique de Virne. Eventéo lui avait suggéré de faire pour la Rélone ce qu'il venait de faire lui-même pour le Théode. Elle avait perçu de la fierté dans la voix de son père quand elle avait rejeté sa proposition. Elle comptait se battre pour la Rélone, pour Elantris, et pour le maintien de sa religion, parce que la Rélone, ce pauvre Arélone malade, était le dernier bastion du Chukorat désormais. Terre autrefois bénie des dieux, cette nation était devenue le seul refuge de Domu.